BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Retrouve en deuxième partie de l'émission avec Emmanuel Chip qui n'arrête pas de souffler, de soupirer. Il a envie d'être dans la rue. Il a envie d'être dans la rue avec le vrai pote. Notre nouveau Philippe Martinez. Ouais. Allez, Eric Lewin qui a mis ses chaussures
du
sur
côté
la...
Du côté des énergies fossiles.
Voilà, du voilà. Côté de l'homme qui défend la voiture thermique, l'énergie fossile et l'économie brune. Anna qui a fait une entrée remarquée en première partie. Bravo, c'était très intéressant. Et Alain Pitou qui se désole parce qu'il n'a pas réussi à convertir Emmanuel Le Chypre à la voiture électrique. Allez, on passe au marché. Les marchés, je vous donne à peu près ce qui s'est passé. On est environ à moins 16% sur le CAC depuis le début de l'année, moins 20% sur le DAX, moins 24% sur S&P, moins 32% pardon, sur le Nasdaq, Eurostock moins 20, Nikkei voilà, moins 6, Shanghai moins 16, FTSE moins 6. Alors là, je me tourne vers les pros du marché, c'est simple. Est-ce que la hausse qu'on vient d'avoir, d'ailleurs, on a vu que dans la journée de vendredi, ça commençait à rebasculer vers la baisse, à patauger. Est-ce que la hausse qu'on vient d'avoir ces derniers jours, il y a deux écoles, hein. Il y a l'école du rebond technique dans un marché baissier, ou il y a l'école du renversement de tendance. C'est-à-dire, on aurait touché le fond et on repart, ou est-ce qu'on est dans une tendance vraiment à la baisse, et dans une tendance à la baisse, bah, il y a toujours des rebonds qui sont toujours assez puissants, hein. On appelle ça des rebonds de bear market.
C'est le rebond du chat mort.
Voilà. Le rebond, on appelle ça le rebond du chat mort. Ouais.
Le dead cat.
Non, mais moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas très inquiet. Je pense qu'on va rester dans une poche entre 5006 et 6400 points sur le CAC 40. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que les résultats des entreprises ne sont pas si mauvais que ça. Aux États-Unis notamment, il y a eu 25% des résultats qui sont sortis. Il y a 75% au-dessus des attentes. Mais pourquoi? Parce que les analystes avaient été assez malins
pour réviser leurs attentes. 11%
à 3%, évidemment. Sauf que, on voit qu'on s'en sort bien. En Europe, c'est un petit peu plus mitigé. Il y a eu quand même pas mal de déceptions cette semaine, du côté notamment d'ASML dans les semi-conducteurs, du côté d'Adidas où il y a eu un gros gadin ce matin. Moi, mon sentiment quand même, c'est qu'on va avoir des semaines compliquées avec les banques centrales qui vont augmenter leur taux. On va sans doute avoir 75 points de base la semaine prochaine pour la BCE. Et même chose de la part de la Fed. Mais quand on regarde les valorisations des boîtes françaises notamment, franchement, on n'est pas dans un niveau très élevé. Ça doit valoir entre 10 et 11 fois les bénéfices. Donc, c'est pas dramatique. Et encore, ça vaut 10 et 11 fois sur 2023 avec des bénéfices qui sont attendus en recul de 5% l'an prochain.
Et est-ce que justement les prévisions des analystes sont pas encore une fois trop optimistes?
Bah, non, j'ai pas le sentiment. D'accord. Peut-être sur 2022, parce qu'on est à plus 30 sur 2022, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'impact des politiques monétaires, ce que je disais avant, se fera sentir sans doute à partir du quatrième trimestre, voire à partir du premier trimestre. J'ai l'impression quand même que les mauvaises nouvelles sont intégrées dans les cours. On l'a vu la semaine dernière, et je terminerai, Marc, sur le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui avait été très mauvais. Le marché avait commencé avec un moins 2, on avait fini positif, on avait eu après 4 séances de hausse. Pourquoi? Parce que certains analystes commencent, notamment aux États-Unis, à se dire qu'on a peut-être atteint le pic de l'inflation. Et on sait très bien que si l'inflation ne baissait que, par exemple, que d'un point, ça voudrait dire qu'il y a moins de tension sur les taux directeurs aux États-Unis, etc. Je ne vais pas vous faire la boucle. Et qu'on pourrait avoir des marchés qui finissent quand même un peu mieux l'année.
Alors, ce qu'on voit quand même, à Alain, c'est que les taux d'intérêt continuent à monter. Parce qu'on a beau dire, Analdi, Emmanuel le dit un peu, l'inflation, bah, on commence à avoir des signes qui sont positifs. Ben non, mais... Sur les taux d'intérêt, moi je m'attendais franchement à ce que les taux d'intérêt long terme
se calment un peu.
Commencent à se calmer en disant bah oui, on a passé le pic d'inflation, mais pas du tout. Aux États-Unis, on est passé quand même de 1,30. Je rappelle les chiffres parce qu'ils sont spectaculaires. Oui, on a fait, alors j'ai vu ça sur Twitter, je trouvais ça pas mal. On a effacé en 10 mois la baisse des taux de 10 ans. Ouais.
Et même chose en Europe.
C'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en Allemagne, je rappelle, hein, l'Allemagne, moins 0,40% il y a un an, on est à 2,50%. Voilà. La France, on était à 0, on est aujourd'hui à quasiment 3%. Ouais. Les États-Unis, bon, on est au-dessus de 4%, on arrive à 4,5%. Donc, c'est peut-être ça le facteur qui fait que le marché, il rebondit, il n'arrive pas à continuer.
Alors, c'est ça, en fait, on décrit le bear market, hein, c'est donc inflation, hausse des taux, cirque sur les devises, hein, quand on n'en parle pas assez, je trouve qu'il y a quand même une volatilité sur les devises qu'on n'a pas connues depuis une éternité.
Dollarienne au plus haut depuis, depuis près de 40 ans.
Euro-dollar, c'est pas terrible. Livre, pareil. Et les devises émergentes, c'est juste un massacre. Mais je pense que ce qu'on oublie aussi de signaler dans ce bear market, c'est le début de la diminution du bilan des banques centrales. Alors, soit on se dit, on s'en fout des bilans. Non, parce qu'en fait, c'est le niveau de liquidité du marché. C'est ce qui pousse les actifs risqués à se dégrader. Hein. Donc, Et ça, c'est un élément qui est quand même assez puissant. Et il suffit de mettre en parallèle la courbe du S&P avec le bilan de la Banque Centrale Américaine pour se rendre compte que la liquidité est un élément majeur. Donc, je pense que ça, c'est pas contredit pour le moment. Donc, c'est ce qui limite un peu l'envie qu'on a et ce qu'on sent des marchés, parce que on est tous...
On a senti cette semaine qu'il y a eu une envie de rebondir.
Oui, parce que,
et puis, vendredi, ça y est, les taux, les gens voient les taux comme moi, voient les taux déraper.
Mais on se dit... Oui, mais il n'y a pas de liquidité. C'est-à-dire que ça, c'est quand même embêtant. Quoi. Donc, quand vous émettez, quand vous êtes un État, vous émettez, il n'y a personne en face de vous. Enfin, je caricature, mais ça, c'est un point. Et je pense que les acteurs de marché sont largement sous-investis aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que sur les actifs risqués, on n'y est plus. Dette émergente, actions, small mid-cap, high yield, tous ces segments de marché, on est au niveau minimum d'investissement. Donc il suffirait de pas grand-chose pour que ça reparte, mais on n'a pas ce déclic. Et le déclic, c'est le discours de Powell. Hein. Le jour où il nous dit ça s'arrête, et ben là, c'est...
Pourquoi les taux d'intérêt à long terme, Emmanuel, continuent à monter? J'arrive pas à comprendre. Les anticipations d'inflation commencent à être meilleures. Pourquoi ça continue à monter? Pourquoi ça s'arrête pas, quoi?
Mais parce que je pense que ce qui est anticipé, c'est pas seulement... je pense qu'il ne faut pas regarder que l'inflation, c'est-à-dire en gros la vitesse à laquelle les prix augmentent. Ce qu'il faut voir, c'est quand même l'élévation de la base de coûts de production de l'économie mondiale et qui est durable pour pas mal de raisons qu'on a déjà évoquées.
D'accord. Mais ça fait une partie de l'inflation.
Si, je pense qu'il y a quand même une partie inquiétude sur les finances publiques qui est massive. Et puis, il y a quand même le changement de politique monétaire qui a lui aussi une importance sur la remontée des taux longs.
Anna, pourquoi les taux continuent à déraper alors qu'on a des anticipations qui sont quand même plus favorables?
Alors, effectivement.
Et puis, il y a la liquidité qui... Attends, non, la liquidité, on se retrouve dans le même cas qu'en 2018. Ouais. C'est-à-dire que dès que vous voyez que la liquidité diminue, ça commence à aller très vite.
Anna.
Oui, effectivement. Je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y a un problème de liquidité. Donc, il faut voir effectivement ce qui va se passer dans les prochains mois, notamment ce que va faire la BCE, c'est-à-dire de combien, effectivement, elle va monter. Est-ce que ce sera à chaque fois de 0,75 points de base? Est-ce que ce sera de 0,5 ou de 0,25? On va voir. Et le différentiel, surtout avec la Fed. Dans tous les cas, effectivement, le pic de l'inflation est probablement pas passé encore, effectivement, en Europe. Mais ça va finir, en tous les cas, par diminuer, une forme d'autorégulation à la fin, puisqu'il va y avoir des contraintes, l'inflation du moins qui est due à la demande, forcément.
L'absence de liquidité que vous décrivez tous comme étant un problème, c'est juste le fait que la liquidité, elle était fournie par les banques centrales.
Ah ben le bilan qui comptait. Donc voilà. Il baissait
du jour au lendemain, le plus gros acheteur. C'est comme si dans un marché, les plus gros acheteurs disparaissent.
Donc, c'est de la plomberie, c'est-à-dire qu'en fait, on met moins d'eau et on met moins de dollars sur le marché, le dollar monte et il y en a moins sur le marché, donc c'est plus difficile de s'endetter, c'est plus difficile de consommer, donc il y a plein de choses comme ça.